Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 23 mars, vous êtes sur Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur, sur Radio Kaléidoscope. Radio Kaléidoscope, c'est la radio installée au village olympique. Et autour de cette table, une équipe un peu réduite aujourd'hui, puisque nous sommes que trois, avec Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Morgane. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Moi-même Benjamin, et sans oublier Pato à la technique. Alors, je vous rappelle que cette émission sera rediffusée vendredi à partir de 19h, que vous pourrez retrouver bientôt le podcast sur le site du Crieur de la Villeneuve, www.lecrieur.net. Et puis, si vous voulez nous joindre et être au courant de l'actualité d'Au ras des rues, nous avons un mail auradesrues@lecrieur.net ainsi qu'une page Facebook auradesrues-rks97fm. Est-ce qu'on a dépassé les 20 likes, Antoine? Roulement de tambour.
Pas la dernière fois que j'ai regardé.
Ah là, ça va commencer à être dur. Bien. Alors, on commence par le traditionnel Injada du Crieur de la Villeneuve. Alors cette semaine, le gros événement, ça sera vendredi, donc vendredi 25 mars, avec le carnaval. Le carnaval suivi d'un concert sur la place des Gens. Alors le carnaval partira, le rendez-vous est fixé à 16h30 sur la place Rouge. La place Rouge, c'est la place qui est à côté du collège Lucie Aubrac. Donc rendez-vous à 16h30 pour un atelier maquillage. À 17h, le cortège partira à travers le parc et dans la galerie de l'Arlequin. Puis retour sur la place Rouge pour brûler les messieurs carnaval, Donc il y a deux maquettes qui ont été réalisées pour ce carnaval. Il y a celui de l'accordé, des centres de loisirs l'accordé, et celui réalisé par Madame Rutabaga. Morgane, tu as assisté à la création de ce bonhomme.
Tout à fait, j'ai vu ce bonhomme se construire entre les ateliers de la place des Géants et de l'Arlequin. Mmh. Voilà, donc c'est un travail contributif entre deux groupes d'enfants.
Et tu penses qu'il va bien brûler alors vendredi?
On va voir.
Non, bah, il est recouvert de Dauphiné libéré, normalement, ça devrait le faire, non? Voilà, donc ça sera à partir de 17h le carnaval, et puis à partir de 19h30, il y aura un concert sur la place des Géants dans le cadre du festival Les Détours de Babel. Un concert de deux groupes, les groupes In Situ, on va y revenir un peu dans la suite de cette émission vu que les musiques de cette émission seront des musiques d'In Situ, le groupe de musiciens qui réunit musiciens amateurs et professionnels du quartier de la Villeneuve. Et donc un concert du groupe In Situ et un concert du groupe Jal, ça sera de la musique traditionnelle. Et la compagnie Les Rémouleurs fera une projection d'images réalisées par les enfants sur les murs du quartier. Donc apparemment, ça va être très très joli. Donc ça sera vendredi 25 mars à partir de 16h30 pour le carnaval et à partir de 19h30 pour les concerts. Jeudi 30 mars à partir de 20h, il y aura une réunion publique sur l'équipe pluridisciplinaire. Ça sera à la salle 153 de la Bourse du Travail. Donc la Bourse du Travail, c'est au 32 Avenue de l'Europe. L'équipe pluridisciplinaire, c'est celle qui est chargée de l'élaboration des projets de rénovation urbaine sur le quartier de la Villeneuve du Village Olympique, ainsi que Villeneuve-Déchirolles. On va y revenir à la fin de cette émission, je pense, sur cette réunion, Antoine.
Oui, on va en parler un petit peu, puisque en fait l'équipe pluridisciplinaire devait travailler cette année. Là, elle va arriver aux alentours du 1er avril, sans mauvais jeu de mots, mauvaise blague. Et puis on va pouvoir travailler avec eux, on espère toute l'année, pouvoir co-construire le projet et puis donner une vraie place aux habitants.
Et bien on y reviendra dans la suite de cette émission. Et puis pour finir cet agenda, vendredi 1er avril, sans blague non plus, il y aura un repas citoyen. Que sont les Chiliens devenus? Alors, il faut savoir qu'il y a eu quand même une forte immigration chilienne dans le quartier de la Villeneuve. Donc, un repas citoyen avec un temps d'échange entre participants est organisé vendredi 1er avril. C'est à partir de 18h à la salle polyvalente des Baladins. C'est au 85 Galerie des Baladins. Les repas sont à partir de 5€ et les réservations sont à faire auprès de Villeneuve Debout. Donc, ils sont situés à la Maison des Habitants des Baladins, 31 Place des Géants. et de la régie de quartier, la régie de quartier qui est située au 17 Galerie de l'Arlequin. Et puis toujours vendredi 1er avril, à partir de 19h30, aura lieu une soirée chorale au Baratin avec la chorale Les Crominotes. Le Baratin, c'est le café associatif du Patio, 97 Galerie de l'Arlequin. C'est tout pour cet agenda. Est-ce que vous avez des choses à rajouter de votre côté?
Non, c'est déjà bien copieux.
Moi, je voulais rajouter quand même que jeudi prochain, 24, il y a l'Assemblée des ateliers populaires d'urbanisme sur le thème de l'habitat. Et il y aura notamment l'élu à la métropole de Grenoble qui sera là. Et on pourra justement échanger avec elle et puis peut-être qu'elle prendra des engagements. On verra.
Donc c'est à quelle heure?
C'est à 20h, salle 150.
Salle 150, donc c'est en face du patio.
97, Galerie de l'Arlequin. Voilà,
on commence à connaître les adresses par cœur, la Villeneuve, à force de la répéter. Et puis sinon, dans l'actualité du Crieur, cette semaine, en fait, du 21 au 26 mars, c'est la semaine de la presse. Alors la semaine de la presse a lieu tous les ans. L'idée, c'est d'inciter les jeunes à lire des journaux. Et cette année, pour la semaine de la presse, le Crieur s'associe avec le collège et 4 écoles de la Villeneuve pour sortir un petit journal qu'on a appelé le mini-journal de la Villeneuve, donc en collaboration avec le collège Lucie Aubrac, l'école Les Buttes, l'école des Genêts, l'école des Trembles et l'école La Fontaine. Donc voilà, il y a plein de petits articles écrits par les enfants à lire à l'intérieur, des dessins de presse, il y a des poèmes sur le quartier, un roman photo sur des filles qui n'ont pas le droit de faire du foot, des comptes rendus de spectacles. Voilà, donc il sera en vente au prix de 50 centimes dans le quartier. Il y en aura au Crieur. Je ne sais pas comment les écoles vont s'organiser encore pour vendre ce journal. Mais voilà, il y en aura en tout cas disponible auprès du Crieur. Donc nous, on est situé à la Maison des Habitants, au 31 Place des Géants. Voilà. C'était tout pour l'actualité du Crieur. On va faire une petite pause musicale. Mais donc, je l'ai répété tout à l'heure, les chansons sont consacrées à In Situ aujourd'hui.
Alors Morgane... du coup, je vais faire un petit rappel sur le projet In Situ. In Situ, c'est un projet de réunir musiciens professionnels et amateurs dans une production. Alors, il y a eu des collectes sur le quartier de la Villeneuve, donc où des musiciens professionnels sont partis à la recherche des sons, des chants des habitants. Mais il y a eu aussi tout un nombre de soirées, rencontres et séances en appartement, d'enregistrement, de composition entre ces habitants musiciens professionnels, parce qu'un certain nombre de l'équipe habite le quartier, et également les habitants amateurs qui habitent à la Villeneuve. Donc ce projet a été porté par l'association Ça se fait depuis janvier 2014, jusqu'à octobre 2015, et aujourd'hui ça se termine par la production d'un album dont on va écouter des extraits aujourd'hui. Alors,
ça se termine ou ça continue?
Alors justement, cette aventure se termine pour Ça se fait en tant que porteur, mais le projet In Situ continue avec notamment ce spectacle In Situ In The Air qui est porté pour le coup par l'association Mustradem et les Détours de Babel, dans le cadre du festival des Détours de Babel. Les musiciens qui restent les créateurs dans ce projet avec tous les musiciens amateurs sont donc Marie Mazzi, Norbert Pignol, Patrick Reboux et Christophe Sacchettini, qui accompagne les productions et les chants des habitants. Donc on va écouter le morceau Anna Jeanne, qui est chanté par Zoya Daneshrab. C'est un chant iranien, et donc la chanteuse est d'origine iranienne.
Donc c'est en perse.
C'est en perse. Anatan bağım gön elemişem ben, yüreğimi giriyon elemişem ben. Bir ala gözlü yarın eşkın yolunda, bir ala gözlü yarın eşkın yolunda. Canımı kurban elemişem ben. Donc c'était Anajan de Zoya Daneshrab au chant, avec en accompagnement Marie Mazzi au nickel harpa, Patrick Rebou à l'accordéon et Christophe Sacchettini au caron, je sais pas comment on dit, shakers. Enfin, c'est les percussions, quoi.
Merci, voilà. Morgane. Vous êtes toujours sur Aura des rues, l'émission de l'actualité des quartiers sud de Grenoble. Et maintenant, Antoine, tu vas nous parler de Calais, de la jungle de Calais et de reportages qu'ont réalisé les étudiants de l'IGA, donc l'Institut de géographie alpine, sur place.
Voilà, donc je rappelle que l'Institut de géographie alpine, il est situé au quartier Vigny-Musset, donc proche de Villeneuve, proche du village olympique, et c'est aussi pour ça qu'ils font partie du quartier et qu'on s'intéresse un peu à ce qu'ils font. La semaine dernière, on a écouté la première partie du reportage audio qu'ils ont réalisé, et puis là, du coup, on va écouter la deuxième partie, suite et fin.
Des centaines de clandestins, en plein jour, en pleine rue, dans le centre de la ville.
Moi, je suis très partagé par ce que je vois ici, parce que j'ai l'impression que des fois, en fait, les extrêmes se font monter les uns les autres.
Ouais.
Ils disent, voilà, toi, je t'aime pas, t'es un con, je t'aimerais pas, voilà, je te parle pas. Et ça devient, je me vois sur les réseaux sociaux, ça devient aussi, les gens, ils se braquent, ils disent, voilà, si t'es pas de mes idées, je te viens de ma liste. Mais ils le font pas entièrement, c'est-à-dire que si par exemple, il y a des cousins ou des frères ou des sœurs qui partent avec qui, justement, ils partent pas les mêmes, ils le font pas, ça, ils font pas le tri.
Second calé, tout ça, en fait. Ils sont pas très clairs dans ce qu'ils veulent, et du coup, quand ils ont des arguments en disant voilà, il y a eu des débordements, oui, c'est vrai qu'il y a eu des débordements, ils arrivent à chauffer des monsieur tout le monde dans la ville, des lambda qui sont pas forcément fachos, mais ils font quand même des manifestations où ils sont justement avec des gens.
Ils ont déjà pris ses empreintes parce qu'il est passé par l'Italie. Il a débarqué à Marseille, et dès qu'il est arrivé à la gare de Marseille, il y a des appels de la police qui l'ont interpellé, ils ont pressé son train. Tu vas à l'époque.
Et après ?
Quel nom ? Après, ils l'ont lâché.
Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il veut aller en Angleterre ?
Ah non, je ne sais pas si je vais en Angleterre. Pour la protection déjà, il dit. Ils ont déjà beaucoup souffert en Italie, parce qu'apparemment ils étaient complètement à l'abandon et dormaient dans la rue.
Et la police
La police, apparemment, ils débattent excessivement ici. Ils ont cassé les doigts d'un Somalien. La mâchoire, il y en a un apparemment. Sa mâchoire, elle a été déplacée.
Et ça se passe la nuit ou
marche à la nuit, Fellil ou la Fumhar, la police
Fellil,
la nuit.
Apparemment,
la nuit, quand ils rentrent de la ville, ceux qui retardent un peu et tout, ils se font choper par la police à l'entrée, ils se font battre et abandonner dans la rue. Et du coup, ils évitent de balader la nuit. La journée, il n'y a pas de problème apparemment. C'est la jungle. Qu'est-ce que tu as dit?
S'il y en a d'autres que la police qui les battent.
Nuit.
La nuit.
Ah, en dehors de la police.
En dehors de la police.
Où est-ce
que la nuit?
Là, chez la police. Il y en a les rarement comme. Juste la police. La police est rarement. Mais là, chez la police.
يعني ضربوا كذا سوري واحد ضيع عينه دي باص
يعني البوليس
والله دي اللي بيقول الفاشيه لكن احنا بندور البوليس انه ضرب كذا واحد شفت القابل القريبه
دي؟ ايوه ظلكه
Bah, dehors. Apparemment, il y a des mecs qui étaient masqués comme ça, enfin, ils masquaient leur visage, il n'y avait que leurs yeux. Ils ne savaient pas trop si c'était des policiers ou pas. Ils avaient pété l'œil d'un Syrien, en fait. Là-bas, du côté de la pseudo-forme, là-bas.
Qui peut être pour ça? Qui peut être pour des
bah, dès qu'on retient la misère.
Bah, je veux dire, valider un camp, quelque part, c'est horrible. Ouais. Je veux dire, voilà, c'est peut-être mieux, mais c'est quand même, ça reste un camp.
Ouais.
C'est ça, moi, pareil, j'ai eu cette discussion-là avec des gens qui sont engagés, et je leur dis, mais t'es pour ça, toi, vraiment? Et en fait, c'est, la réponse, elle est un peu ambiguë, quoi. Je me sens pas forcément en insécurité ici, plus que dans une autre ville.
Ouais.
Du coup, le problème, ce sont les trafiquants, en tout genre, qui sont dans la rue. La sécurité, elle a toujours été liée aux gens qui sont dans des briétés, c'est tout, quoi. C'est à ce même. Je suis allé voir un verre il y a pas trop longtemps, je suis plus habitué des bars, mais je veux dire, moi, le peu de fois où je vais voir un verre, après ça chauffe, c'est des mecs comme nous qui sont bourrés, qui ont bien un coup de
poing.
Ça n'a rien à voir avec ni les fachos, ni les... ni les migrants,
c'est la
différente, et les gens ils mélangent tout.
Ouais.
Je veux dire, ici, les gros problèmes de la sécurité qu'il peut y avoir, c'est les mafias qui sont dans la rue.
D'accord.
Qui sont impunis.
D'accord.
Ici, c'est dans la plupart des hôtels ici, il y a quand même des passeurs.
Le problème, c'est que comme on parle de Calais en très mauvais, donc forcément, y a un impact que beaucoup de gens de l'extérieur ne veulent plus venir à Calais.
Ouais.
Donc, après, c'est vrai qu'il y a des endroits de Calais où les gens en pâtissent beaucoup. Mmh. Je vois par exemple à Marc, ils ont envahi tout un lotissement la semaine dernière. Quand ils ont fait une manifestation le jour de Noël, ils ont traversé tout Calais, ils ont cassé tous les rétroviseurs, des voitures. Tout. Bon, je touche du bois jusqu'à présent, nous ici.
Ça va.
C'est sûr que dans la journée, oui, voilà, c'est ça. Dans la journée, il doit y avoir. Il fait jour, tout ça. C'est vrai que quand il y a un peu de chou, quoi. Mmh. C'est vrai que. Bon, après, c'est vrai que pendant un bon moment, on a eu il y avait des squats en ville. Donc, par exemple, là, dans l'autre côté, dans le centre-ville, il y avait des squats. Bon, les squats n'existent plus. Donc, c'est vrai que. Parce qu'on en voyait beaucoup dans Calais. Là, c'est vrai que dans Calais, on en voit. Ils ont été chassés. Ils ont été chassés. Ils ont été déplacés. En réalité, tout a été déplacé vers la jungle.
Ouais. Et cantonné après.
Voilà. Donc après, c'est vrai que moi, j'ai ma soeur qui travaille au tunnel. Des fois, quand elle reparte la nuit, elle n'est pas trop rassurée. Quand elle envoie un groupe qui marche des fois sur la route, tout seul en pleine nuit, c'est pas rassurant.
Et après, en termes de témoignages, d'agressions
Des agressions, je pense, il y en a.
Ouais.
Il se passe, mais on ne sait pas tout.
Ouais.
On ne sait pas tout. On entend comme ça un peu de temps en temps. Ouais. Moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit on est bien placé pour savoir qu'il se passe des choses, mais on ne dit pas tout. Bah, après, nous, le problème, c'est que quand on a des manifestations, par exemple, la place d'armes, c'est vrai que moi, le soir, quand je repars sur la place d'armes, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. C'est pas sécurisant. Je veux dire, maintenant, c'est vrai que les gens, même dans Calais-Nord, où on dit que c'est plus. Les gens, ils aiment plus trop sortir le soir. Quoi.
Ouais.
Quand on va vers la plage, on est plus en sécurité, malgré que sur la plage, il y a des chalets qui ont été beaucoup de chalets ont été squattés et abîmés. Mais c'est tout par moment, c'est pas tout le temps. C'est vrai que moi, je vais me promener le week-end sur la plage, mais des fois, il y en a qui squattent des chalets ou des trucs comme ça. Quoi. Moi, je demande qu'une chose, c'est que Calais soit redynamisé, mais qu'on arrête cette mauvaise image de marque de Calais. Quoi. Parce que c'est vrai que les médias...
Oui, mais bien.
Moi, quand j'ai beaucoup de fournisseurs à l'extérieur, et ils me disent Calais, c'est la guerre, Calais, c'est Bagdad.
Non, pas forcément.
J'ai encore un couple de retraités, là, ils ont de la famille qui est en Abbeville. Le jour, la dame, elle a appelé, elle avait fait des images à la télé, elle dit vous enfermez, vous sortez plus. On est ressorti beaucoup, le commerce
aussi. Après, vous, en tant qu'habitante, vous considérez que la vie, elle continue plutôt.
Ah ouais, elle continue normalement.
C'est ça, il n'y a pas de.
Non, elle continue normalement.
Donc, vos ressentis, c'est que oui, il y a des zones à éviter à certaines heures et par moments.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai une cliente qui habite à Boulogne, elle vient de temps en temps à Calais, elle m'avait téléphoné qu'elle ne voulait plus venir. Je lui ai dit vous pouvez venir, il ne va rien vous arriver. Elle est venue, elle l'a constaté elle-même.
C'est Aïssa et ça c'est Tayyib du Soudan.
Bonjour.
Bonjour.
Sit down, sit down.
No, I can sit here.
Yeah? Yeah, okay.
Thank you, thank you, thank you.
Voilà, c'était le reportage des étudiants de l'IGA qui sont allés voir du coup la jungle de Calais. Et puis comment en fait il y a deux mondes là-bas. Il y a les migrants et puis il y a les Calaisiens avec ceux qui sont contre. Et puis il y a ceux qui sont pour, les no-borders. Puis à côté de ça, tous les Calaisiens qu'en pâtissent en fait du conflit qui existe entre ces deux extrêmes. Et voilà, je trouvais que c'est un reportage assez juste. Il y a des moments où c'est vrai que c'est pas très audible quand ça se passe à la jungle, mais je trouvais que c'était assez important de les mettre et de montrer qu'ils étaient vraiment allés et qu'ils avaient pris le temps, eux, de discuter avec des migrants qui avaient vécu quand même un passage assez difficile en Europe et qui sont vraiment dans l'attente dans la jungle de Calais. Mmh.
Ouais. Juste pour rappeler, c'était un reportage qui durait 40 minutes. On en a fait une sélection de 2 fois 8 minutes.
Ouais,
on a diffusé la première partie de la semaine dernière, mercredi 16 mars, et donc la deuxième partie aujourd'hui.
Voilà. Et il y avait une exposition aussi à l'IGA. Il y a peut-être encore cette semaine, mais enfin, il y avait pendant 2 semaines, là, c'était une exposition et on pouvait écouter en fait les témoignages, tout ça.
Alors Anton, à présent tu vas nous parler du CIST et d'une visite de chercheurs à la Villeneuve. Alors CIST, qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est pour rester dans le thème des universités. Le CIST, c'est le Collège International des Sciences du Territoire. Et justement à Vigny-Musset, où est installé l'Institut de Géographie Alpine et l'Institut d'Urbanisme de Grenoble, c'est la Cité des Territoires. Et forcément, le Collège International des Sciences du Territoire, qui s'est déroulé à Grenoble, a eu lieu sur le quartier. Donc c'est des colloques, c'est-à-dire c'est pas mal de conférences, de chercheurs qui parlent de leur recherche tout simplement. Ils posent des questions, ils soumettent leurs théories aux autres. Et il y avait notamment Pierre Rabhi qui était là le jeudi après-midi.
Et il a fait ça le comble à l'amphithéâtre du campus.
Le soir, ouais, le soir même il était là-bas. Et moi je veux plutôt vous parler du vendredi. Et le vendredi, il y a eu 3 conférenciers, donc Kirsten Koop, Klaske Diskema et David Bodinier, donc qui ont coécrit un petit livret qui s'appelle Les Tours d'en face, et en fait qui parle justement de la relation entre l'université et la Villeneuve et comment on peut créer plus de liens.
Et plus généralement, les relations entre l'université et les quartiers populaires.
Oui, plus généralement. Mais disons que le terrain, ça a été vraiment la Villeneuve et l'université, la Cité des Territoires. Et justement, ils organisaient... donc un colloque, en général, c'est dans une salle fermée avec uniquement des chercheurs. Et là, on a changé un petit peu. C'est qu'on a fait 4 groupes et on est allé se balader dans le quartier pour montrer un petit peu... ce qu'on faisait sur le quartier, montrer le terrain, et je pense que c'était important, d'autant plus qu'on est vraiment à 5 minutes et que ça valait le coup. Puis même des fois, quand on fait des réunions toute la journée, c'est toujours bien de sortir, de s'aérer l'esprit. Et puis ça a permis de montrer, moi dans mon groupe par exemple, on est monté sur le jardin du parking Silo, donc on a montré comment les habitants s'étaient réappropriés l'ancien jardin de l'école des Charmes. Puis ensuite, on a montré la solution institutionnelle avec le jardin partagé, Terre-Neuve, où était le gymnase de la piste. Et puis ensuite, on est parti sur l'aire de jeu, donc, avec lequel on a fait une concertation.
Qui est en cours de rénovation, en fait.
Qui est en cours de rénovation. Il y a 2 mois de travaux. Ça a commencé depuis 2-3 semaines. Donc voilà, il y en a encore pour 1 mois et demi, je pense. Et il y aura... on garde le grand toboggan et on garde le trampoline au bonheur des enfants.
Et juste, ce qui était vraiment... parce que du coup, j'y étais aussi. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était le fait qu'il y ait plusieurs habitants, souvent dans les groupes. Et qu'en fait, ce qui s'installait, c'était pas une présentation des habitants du quartier... Enfin, une présentation du quartier par les habitants du quartier, mais des présentations où, à l'intérieur même de ces présentations, il y avait des discussions et des désaccords. Et en fait, vis-à-vis des personnes qui parfois venaient, nous on a eu des personnes de Lille qui étaient dans notre groupe, tout de suite, ça prenait une autre substance, les discussions. Et puis même les chercheurs, finalement, se mettaient un peu dans une posture d'habitant en faisant référence à eux, ce qu'ils vivaient dans leur propre quartier, parce qu'il y avait cette capacité de discussion interne au groupe. Voilà.
Ouais. Puis c'est vraiment ça aussi l'intérêt des colloques, c'est de pouvoir confronter en fait les différentes expériences et cette fois-ci on était vraiment sur le terrain et voilà, c'est ça qui changeait et qui était agréable.
Et ben parfait. On va faire une nouvelle pause musicale, toujours avec un extrait de l'album In Situ. Morgane, qu'est-ce qu'on va écouter ?
Alors nous allons écouter Los Hermanos, chanté par Yannick Lardet. Et il est accompagné, et ben je vous le dirai après avoir écouté le morceau. Donc on écoute Los Hermanos, qui est une chanson en espagnol.
Moi, j'ai tant de frères et sœurs que je ne peux pas les compter. Dans la vallée, la montagne, dans la plaine et en mer. Chacun avec ses travaux, chacun ses rêves. Chacun avec l'espoir en avant, avec les souvenirs en arrière. Moi, j'ai tant de frères et sœurs que je ne peux pas les compter. Et une fiancée très belle qui s'appelle Liberté.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con su esperanza por delante, con sus recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, pa' eso de la amistad, con un llanto para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá. Con la fuerza para buscarlo, con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y siempre nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y con nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Alors c'était Los Hermanos, interprété par Yannick Lardet. C'est une chanson reprise de Atahualpa Yupanqui. Et donc, au début, il y avait la traduction lue par Zoya Daneshrab et au chœur, Marie Mazille et Patrick Rebou à l'accordéon. Voilà.
Eh bien, merci Morgane pour cette présentation. Et tu vas garder la main puisque tu vas nous parler de l'atelier de l'association Beiti, un atelier d'Darbouka. Alors, Darbouka, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la Darbouka, c'est une percussion du monde arabe qui est une
on
percussion...
reste dans le thème musical, du coup.
Tout à fait. Et donc, une percussion du monde arabe qui est utilisée dans toutes les musiques traditionnelles, qui est sortie à chaque mariage, à chaque fête. Voilà, c'est vraiment l'instrument qu'on a sous le bras. Et on a appris ensemble avec les enfants à jouer des premiers rythmes de Derbouka à l'atelier Beiti. Beiti, ça veut dire ma maison.
En arabe.
C'est en arabe, tout à fait. C'était samedi 19 de 15h30 à 17h dans le café des voisins voisines dans le quartier Vigny-Musset. Donc on écoute l'enregistrement.
Alors, est-ce que on dit la formule tous ensemble pour commencer l'atelier? 1, 2, 3. C'est parti.
Super. Donc on va découvrir cet instrument qui est la derbouka.
Derbouka.
Qui est un instrument, c'est une percussion. Et donc c'est joué dans tout le monde arabe. Vous savez où est-ce que c'est le monde arabe?
Oui, moi je sais, moi. Plutôt vers la France.
Vers la France?
Non, mais c'est parce que l'Europe, regarde, l'Europe, il y a la France là, et hop, il y a l'Algérie.
Ah.
Et au Moyen-Orient.
En Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
Et l'Iran.
Non, l'Iran, ça s'arrête à l'Iran. Après, il parle iranien, perse. Il joue, c'est un autre instrument qui se rapproche de la derbouka qui s'appelle tombak.
Tout le monde connaît la batterie?
Oui, mon père, il en fait.
Bah voilà.
Non,
ça, c'est une percussion.
Et qu'est-ce qu'on joue alors avec des percussions? Des rythmes.
Des rythmes.
C'est bien. Ah. Qu'est-ce que c'est un rythme?
C'est toujours régulier.
Ouais.
Quand on tape.
On va commencer avec une petite histoire d'une petite fille qui aime beaucoup la derbouka. On met la derbouka sur sa cuisse.
Voilà.
Donc, tu peux la mettre sur ta gauche ou sur ta droite, là où tu prends le demi. Tu mets comme ça va être mieux. Boum. Tac. Voilà. Laisse tes doigts partir. Très bien. Les deux derbouka qui sont là. D'accord?
Oui, donc du coup, moi, je l'ai amené parce que c'était l'atelier d'Herbouka. Et là, c'est la première fois et apparemment, il m'a dit que c'était trop bien.
Okay.
Donc, tant mieux.
Super. Et vous connaissez par où, Beiti?
Par la maman d'un petit garçon qui est dans sa classe, en fait.
Tu penses que tu as appris des choses aujourd'hui?
Beaucoup.
En fait, on m'a parlé de Beiti. On m'a dit que c'était fun et sympa. Donc, j'ai un garçon de 6 ans qui aime bien tout ce qui vient de la culture arabe.
Beiti, ça veut dire ma maison en arabe. Et moi, je suis d'origine syrienne et ça m'a tout de suite attiré. Déjà, le nom de l'association, je le trouvais très, très sympa. Et j'ai vu qu'il y avait cet atelier-là de derbouka. Et derbouka, c'est vraiment l'instrument de la musique arabe.
Et du coup, comment ça s'est passé là aujourd'hui?
Eh bien, vraiment, c'était très agréable. Les enfants étaient très intrigués par l'instrument, par cette musique. Et on sent qu'ils avaient vraiment envie de découvrir et d'apprendre. Et puis à la fin, le résultat était assez bluffant, quoi. Ça m'a fait plaisir de les voir jouer tous ensemble. Et ils ont pu accompagner le oud aussi.
On est une vingtaine de personnes à faire du Beiti avec les enfants. Ça existe depuis 2 ans et des brouettes. Ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans, depuis juin 2014 qu'on propose donc des activités de découverte des cultures du monde arabe aux enfants de 4 à 12 ans. Sous forme soit d'ateliers, comme aujourd'hui un atelier avec un thème, soit de spectacles qui sont là pour le coup adressés aussi aux adultes. Et puis on a diverses animations, donc dès qu'on peut participer à des événements festifs, on va faire la fête avec tout le monde avec nos couleurs Beiti, donc culture du monde arabe, culture avec un S. Et puis, il peut y avoir des choses vraiment arabo-arabes, mais il peut y avoir des choses berbères, il peut y avoir des choses kurdes, il peut y avoir des choses qui sont chantées dans des langues qui existent dans le monde arabe mais qui ne sont pas arabes. Tout ça, c'est... Beiti est censé en tout cas redonner leur place à toute cette diversité. L'idée, c'est vraiment que cette culture, elle n'appartient pas en propre à des gens en particulier, mais c'est vraiment un patrimoine qui est à tout le monde. Et il n'y a pas non plus de barrière qu'il ne faudrait pas franchir quand on s'en saisit. Et chaque atelier de Beiti est fait pour ça, pour que les enfants s'approprient vraiment, que ça soit à eux. Et c'est pour ça que ça s'appelle Beïti, ça veut dire ma maison, et il faudrait que les enfants se sentent à la maison dans cette culture. Et voilà, les enfants qui sont là, ils viennent d'horizons très divers. Et en fait, on s'en fiche. Je crois qu'eux-mêmes, ils ne se demandent pas d'où ils viennent. Ils nous disent spontanément s'il y a des choses qu'ils connaissent ou qu'ils reconnaissent. En tout cas, on ne focalise pas du tout là-dessus. C'est des enfants devant une culture, point.
Voilà, donc au bout d'une heure et demie, eh ben, on avait déjà un petit concert, c'était quand même super chouette. Alors, pour vous traduire la formule magique de départ pour commencer un atelier sur les bonnes rails, donc El Beit, Beitek, ça veut dire « cette maison est ta maison ». Et voilà, donc l'association Beiti, ça s'écrit B-E-Y-T-I, vous pouvez les suivre sur Facebook, apparemment il marche bien le leur. Et les retrouver, ils se donnent rendez-vous dans différents restaurants de Grenoble, sur les temps hors des services, voilà, pour utiliser les lieux quand bah, ils sont tranquilles. Et souvent, bah, apparemment, on leur demande de venir parce que ça se passe super. Et puis voilà, il y a une très très bonne ambiance. Et c'est pour les enfants. Alors cette fois-ci, c'était pour les enfants de 7 à 9 ans, je crois. Mais peut-être que ça varie en fonction des ateliers. Voilà.
Très bien. Alors, est-ce qu'il y aura de la derbouka à ton mariage, Morgane ?
J'ai pas encore prévu de me marier, mais je te dirai.
Eh bien, en attendant, peux-tu nous présenter la prochaine chanson, puisqu'on va faire une pause musicale.
Donc, pour rester dans le thème du monde arabe, une chanson qui s'appelle Tahat al-Yasmin Afelil, qui est chantée par Nassima Boulrens, qui habite le quartier de la Villeneuve. On écoute.
تحت الياسمين في الليل
Voilà, donc c'était Nassima Boulrens qui chantait Tahat al Yasmina Felil, une chanson de Hedi Jouini, accompagnée par Marie Mazi, Patrick Rebou et Christophe Sacchettini.
Merci Morgane. Et tu restes avec nous puisque tu vas nous parler des compteurs Linky. Alors ces compteurs Linky, c'est les nouveaux compteurs électriques que RDF installe un peu partout en France. Et tu as rencontré un collectif d'opposants à ces compteurs.
Tout à fait. Alors j'ai rencontré les quelques membres du collectif de Villeneuve contre l'installation, qui s'était créé en 2007 contre l'installation des antennes relais de téléphonie mobile sur les toits de la Villeneuve. Donc voilà, c'est une évolution de ce collectif. On va écouter leur explication de la problématique des compteurs Linky.
Bonjour Antoine, bonjour Annette. On s'est donné rendez-vous pour parler de la mobilisation contre l'installation des compteurs Linky.
Donc les compteurs Linky, c'est un grand projet de RDF qui consiste à changer 35 millions de compteurs. Changer les compteurs actuels donc, par des compteurs dits communicants. C'est une stratégie générale du RDF pour entrer dans les directives européennes. C'est un projet considérable sur le plan financier, un projet qui va coûter à l'RDF à minima 5 milliards d'euros. C'est le chiffre annoncé. Donc ça va se rajouter. Donc inutile de dire que RDF va faire comme tout le monde, elle empruntera de l'argent auprès des banques, elle payera des intérêts. Donc ça veut dire que tout cet investissement, qui nous paraît, nous, un grand projet inutile et imposé, sera de toute façon financé par les usagers de RDF, d'une manière ou d'une autre.
Quel intérêt, selon vous, ERDF trouve à faire cette opération?
Ça rentre dans une stratégie générale de ce qu'on appelle les compteurs communicants. Sur cette stratégie, le but de RDF a avoué de manière explicite, c'est d'éliminer les relèves de compteurs, les relèves manuelles. Ça, c'est l'explication. Par contre, l'explication réelle, c'est de rentrer effectivement dans un système de contrôle de la société, on peut le dire, puisque ces compteurs communicants vont communiquer bien autre chose que des relevés. On n'imagine pas que RDF ferait un tel investissement pour aller relever d'autant que ça marche.
Et alors, vous, qu'est-ce que vous identifiez comme type de dérive?
D'abord, il faut présenter, nous ne sommes pas des individus isolés, on est un collectif. Notre collectif avait été constitué en 2007 contre les stations de relais d'antennes de téléphonie mobile qui étaient installées sur la Villeneuve. Vous pouviez encore, à l'époque, au moins quand vous avez si vous êtes convaincu de la dangerosité des ondes électromagnétiques, vous pouvez au moins vous protéger en n'achetant pas de téléphone mobile ou éventuellement en utilisant un téléphone mobile de manière assez raisonnée. Avec le compteur Linky, les ondes électromagnétiques rentrent chez vous. C'est-à-dire quelque chose qui rayonne et qui va rayonner dans tout votre logement, dans tout votre appartement, au travers simplement de votre réseau électrique. À moins que vous ayez la chance d'avoir un système électrique complètement blindé, ce qui est à mon avis le cas de très peu de monde, sauf apparemment les entreprises de haute technologie qui ont besoin justement de ne pas avoir des problèmes d'interférence et qui font le nécessaire. Ça, c'est le problème de la santé. Le premier problème, je l'ai évoqué tout à l'heure, je vous ai dit que Linky, c'est cher, ça va coûter cher, ça va coûter bien plus des 5 milliards d'investissements, parce que pour que tout ceci marche, il faut aussi derrière des centaines et des centaines de serveurs informatiques qui vont faire ce travail et des sociétés de services qui vont être là pour collecter l'information et la traiter. Donc tous ces coûts, ça se rajoute au coût d'investissement et vous pensez bien que personne, à part les usagers du RDF, ne pourra les payer. Le troisième point sur lequel nous opposons Linky, c'est le fait qu'effectivement, grâce à ce système, votre vie privée va devenir une véritable vitrine pour les gens qui gèrent ces communications, puisque le Linky va permettre en quelque sorte d'échanger des informations avec tous les appareils électriques modernes de votre appartement. Donc Linky sera capable de causer avec tout ça et de récupérer de l'information et de savoir d'une certaine manière assez vite quel est votre style de vie. Et toutes ces informations intéressent beaucoup de gens qui ont besoin de vous connaître en temps, comme profil, qu'on appelle ça du profilage, parce que ces informations se vendent bien, se vendent très cher.
Où est-ce qu'on peut aller se ressourcer en informations sur ces choses-là, des ouvrages que vous pouvez conseiller?
Écoutez, je vais peut-être pas vous parler de droit, je vous ai parlé d'associations qui sont très actives sur ce combat, donc des associations à vocation nationale, donc Next Step Organisation, qui est un site, Robin Détoit a commencé aussi avec les antennes relais. Donc voilà déjà deux sites très importants, très riches en termes d'informations. Ils avaient une troisième société, c'est une société qui est particulière, qui s'appelle Priartem. Priartem fait des études sur la diffusion des ondes électromagnétiques et les dangers que cela peut provoquer dans certains cas.
Et alors, comment aujourd'hui la mobilisation, est-ce qu'elle grandit ?
Actuellement, je vous ai dit tout à l'heure que, outre notre collectif, il y a un collectif qui s'est créé il y a un an à Fontaine, qui s'appelle Stop Contour Linky. Il y a un nouveau collectif qui vient de se créer à Pont-de-Clé. Et c'est pas par hasard, parce qu'à Pont-de-Clé, il y a aussi le président de la métro, Christophe Ferrari. Donc ce collectif s'appelle No Linky. Plus près de nous, la commune de Saint-Nizier-les-Moucherottes vient officiellement de refuser les Linky sur son périmètre. Actuellement, il y a déjà une trentaine de communes en France qui ont, en délibération du conseil municipal, refusé l'installation des Linky. Pour la plupart, ce sont encore des petites communes comme Saint-Nizier-les-Moucherottes. Ceci dit, récemment, il y a la commune de Carmaux, qui quand même représente 18 000 habitants, qui vient aussi d'arrêter un processus d'installation de compteurs. Donc, il semble que, si on prend à l'échelle locale et même à l'échelle nationale, il commence à y avoir effectivement quelque chose d'important.
Est-ce que vous savez qui fabrique les compteurs Linky ?
Diverses sociétés. Vous en avez une qui a été installée à Fontaine. Les compteurs Linky sont fabriqués dans différents sites de France et aussi à l'étranger. Puisque dans l'idée quand même, c'est une directive européenne, donc il s'agit que tous les pays d'Europe se mettent au pli. Donc ça fait au-delà de 35 millions de compteurs en France. Et il y a donc beaucoup plus de compteurs. On pense 80 à 90 millions de compteurs sur l'Europe.
Et au niveau brevet, est-ce que ça fait partie des inventions, innovations grenobloises
Non, je pense pas. Non, mais les compteurs, non, pas du tout. D'autant que les compteurs, attention, les compteurs communicants ont été installés aux États-Unis il y a déjà 4 ans. Vous avez un documentaire qui s'appelle donc Take Back Your Power de Joshua Delchol, qui montre que l'affaire est déjà une affaire ancienne pour les Américains et les Canadiens.
Où est-ce qu'on peut prendre contact avec
eux? On se réunit une fois par mois à la salle de l'Union Cartier, 30 places des Géants. Prochaine réunion, c'est le 4 avril. Puis le 2 avril, un nouveau rassemblement devant la mairie de Pont-de-Clé.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview et puis je vous souhaite bon courage pour la mobilisation.
Voilà, donc vous l'avez compris, si ce sujet vous intéresse, vous pouvez les retrouver le 4 avril au local de l'Union de quartier Place des Géants. Et donc c'était Antoine et Annette du collectif Antenne Villeneuve. Voilà, alors ce qu'ils nous racontent, ça nous fait un peu penser à 1984, George Orwell, mais je vous laisse à vos lectures.
Oui, puis surtout, en fait, il y a les compteurs Linky pour l'électricité, mais en plus, il y a en phase de développement les compteurs Gaspa pour le gaz, qui sont un peu plus en retard par rapport aux compteurs électriques. Puis il y a aussi les compteurs à eau communicants maintenant qui vont être aussi en phase de réflexion. Donc ça fait, vous aurez peut-être potentiellement 3 compteurs communicants chez vous. Donc ça commence à s'additionner quand même.
Si vous êtes recherché par la police, n'allez surtout pas chez vous, on le saura rapidement.
Ou alors n'allumez pas la lumière.
Ah, ça peut être bien aussi.
Ni le gaz, ni prenez de douche.
Voilà, et on vous en parlait. En tout cas, merci Morgane pour cet enregistrement. On continue cette émission avec Antoine. Tu vas nous parler de l'équipe pluridisciplinaire qui arrive à la Villeneuve. On en parlait dans l'agenda de cette réunion entre les habitants et l'équipe pluridisciplinaire, donc chargée de l'élaboration des projets de rénovation urbaine dans le quartier. Alors, l'équipe pluridisciplinaire, pour rappeler vraiment ce qu'elle fait, c'est en quelques mots.
Alors, en quelques mots, l'équipe pluridisciplinaire, c'est une équipe avec... il va y avoir des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des économistes. Voilà, pluridisciplinaire, ça veut dire ça. Beaucoup de disciplines, en fait, qu'on retrouve. Et leur but, à eux, c'est de créer le projet de rénovation urbaine sur les deux Villeneuve et le village olympique, voilà, en quelques mots. Et principalement, en fait, donc dans cette équipe pluridisciplinaire, il y a un chef de file qui s'appelle Passager des Villes. Et en fait,
qui est un cabinet d'études basé à Paris.
Voilà, c'est ça. Je crois qu'ils sont parisiens. Et en fait,
ils sont à Lyon, pardon.
Ils sont à Lyon, ils sont lyonnais et pas parisiens. Mais peu importe, du coup, ils vont être là pendant 3 jours, entre le 30 et le 30 mars et le 1er avril. Ils vont être sur les Villeneuve, et notamment avec trois temps publics. Le premier temps, ce sera mercredi 30, avec le conseil citoyen, donc de la Villeneuve des Chirolles. La table de quartier qui est son équivalent côté
grenoblois.
Et il y aura aussi en fait tous les gens qui ont participé notamment à la semaine de co-construction qui était à peu près l'année dernière et qui était en préface de ce projet, de ce deuxième projet de rénovation urbaine en fait, qui se situait entre la fin du premier projet et le début du deuxième. Et le but donc de cette soirée, c'est de déjà une première rencontre, mais aussi c'est l'idée de pouvoir transmettre en fait ce qui a été fait et notamment pas perdre toute la matière qu'on a récoltée pendant cette semaine, mais bien avant aussi. Et voilà, c'est une idée, une rencontre et une passation en fait. Le deuxième temps, donc lui qui sera le jeudi 31, ce sera une réunion publique à Échirolles. Et donc plutôt en mode, le passager des villes va se présenter en fait aux habitants. Et le lendemain, donc le 1er avril, ce sera à la salle 150 et ce sera là encore un temps public avec les Villeneuvois, les villageois olympiques.
D'ailleurs, ce serait une bonne question à demander aux habitants du village olympique, comment on les appelle?
Ben, c'est les villageois, je crois.
Les villageois, ils s'appellent entre les villageois.
J'ai cru comprendre. Et Pato me confirme que c'est bien les villageois. Voilà. Et donc en fait, il y a aussi un petit souci de calendrier, puisqu'ils ont calé leur date le 30 mars. Et en fait, pendant ce temps-là, avec les ateliers populaires d'urbanisme, Union de quartier Géant Baladin, Villeneuve Debout, pas mal d'associations, on s'était mis d'accord pour fixer une date pour parler du Collège des Saules, donc côté quartier 2 de la Villeneuve. L'idée de cette soirée, c'était de décider de ce qu'on allait faire de ce collège en fait, qui est en train d'être reconstruit juste à côté. Et donc, ce sera un petit peu plus tôt, ce sera vers 18h, vers la MDH des Baladins, il me semble. Et donc, si ça vous intéresse, venez.
Donc le 30 mars, ça sera consacré à la rénovation urbaine.
Voilà, c'est ça.
Toute une soirée sur la rénovation urbaine. Eh bien, merci à tous pour cette émission. On vous rappelle que les musiques aujourd'hui étaient celles du groupe In Situ qui seront en concert le vendredi, donc ce vendredi-là, vendredi 25 mars à 19h30, à partir de 19h30 sur la place des Géants. Pour nous retrouver, nous avons notre compte Facebook RKS, oraderu-RKS97FM. Cette émission sera rediffusée vendredi à partir de 19h. Il n'y aura pas de nouvelle émission la semaine prochaine. Oraderu prend des vacances, mais on sera de retour très bientôt. Et à la semaine prochaine. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt. C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine. Yeah.